Bonjour à tous et à toutes. Grand merci à M. Chlebny de m'avoir proposé de modérer ce débat. J'accepte avec grand plaisir parce que déjà j'aime beaucoup le format des cafés scientifiques et en plus je trouve que le sujet est très très important à être discuté, à être échangé avec vous, avec le public qui est venu ce soir. Donc l'idée de ces cafés scientifiques, c'est, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est pas vraiment de débattre, hein, c'est pas un débat politique, mais c'est plus une activité de sensibilisation et d'échange autour des questions d'actualité. Et qu'est-ce qui pourrait être plus actuel, qu'est-ce qui pourrait être plus important, plus saillant à discuter que la numérisation ou la big dataisation de notre quotidien, de nos déplacements, de nos villes, ou encore de notre monde du travail, qui est donc le sujet spécifique de ce soir. Donc, je m'appelle Francisco Clauser, je suis professeur de géographie politique, je travaille depuis une bonne vingtaine d'années sur la numérisation de notre quotidien, notamment sous l'angle de la surveillance. Numérisation, big dataisation veut toujours dire aussi traçabilité, transparence, justement accumulation, analyse, connexion de données. Je pense chacun de nous ici ce soir a sa propre vision, son propre focus de recherche sur précisément ce type de questions, des focus de recherche qui sont parfaitement complémentaires, et je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir les personnes que je présenterai tout à l'heure autour d'une même table. Donc je travaille actuellement sur l'agriculture numérique, donc la numérisation, l'automatisation du monde de l'agriculture, mais j'ai déjà passé par d'autres étapes avant, notamment des caméras de surveillance, la ville intelligente, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le thème de la soirée, c'est donc métro, boulot, robot. Ça veut dire donc qu'on s'intéresse au big data, on s'intéresse à la numérisation, à l'automatisation de notre quotidien du point de vue spécifique du monde du travail. J'ai toujours tendance à dire à mes étudiants en début de cours, début de semestre, qu'on peut faire le petit test que chacun sur son téléphone intelligent, son smartphone, met le même mot de recherche dans Google et puis on verra tous qu'on aura d'autres résultats de recherche parce que justement Google nous connaît, vous connaît très très bien, c'est très bien à ce que vous vous intéressez, connaît très bien ce que vous avez déjà recherché auparavant, sait très bien où vous vous trouvez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fonction de réponses prédéfinies, c'est-à-dire d'algorithmes, va vous donner des résultats de recherche qui se classent, qui s'organisent différemment de personne à personne. Donc il y a justement au cœur même de toute cette numérisation de notre quotidien, donc de l'usage de technologies numériques dites intelligentes, il y a un effort gigantesque de catégorisation et par la suite d'automatisation, de services, d'activités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est en fonction du passé, d'organiser de manière automatique le présent et d'anticiper l'avenir. C'est ça au cœur, et là je suis assez abstrait, mais on aura tout à l'heure de nombreux exemples du point de vue du monde du travail qui vont rendre la chose plus concrète, plus illustratif, et peut-être aussi plus effrayant ou encore plus réjouissant. On va justement parler des chances et des risques de ces développements, parce que je pense qu'on est dans un monde où il n'y a pas noir ou blanc, il n'y a pas positif ou négatif par définition, mais il y a des chances énormes. Je pense pour beaucoup d'entre nous, la technologie numérique dite intelligente est déjà devenue réalité quotidienne, peut-être même indispensable, sans que on s'en rende compte parfois. Hein, on est plus organisé, plus influencé qu'on pense par ces technologies. Peut-être pour d'autres, pas encore, mais en tout cas, ça soulève toute une série de questions, de questionnements, de problématiques, mais aussi d'opportunités et de chances. Donc, ça sera aussi dans cet état d'esprit que je voudrais bien avoir la discussion ce soir, qui va donc se passer de la manière suivante. On a à peu près une heure et demie ensemble. Je vais moi-même lancer le débat déjà en proposant aux différents intervenants de faire un premier tour de table sur leur point de vue sur la question et peut-être les chances et les risques les plus important de leur point de vue par rapport à la question. Et ensuite, très rapidement, on va ouvrir le débat, on va ouvrir la discussion aux questions que vous avez, aux interrogations, aux étonnements, mais peut-être aussi aux critiques, aux peurs, aux espoirs que vous pourriez donc à ce moment-là exprimer. Voilà donc pour une première introduction générale, je pense ou j'espère qu'on parlera aussi, à un moment donné, on irait au-delà de la question vraiment du monde du travail, pour peut-être nous demander plus généralement, ben, finalement, cette technologie, finalement, toutes ces évolutions, qu'est-ce que ça fait avec nous, humains, individus, sociétés, en quoi est-ce que ça nous influence, en quoi ça redéfinit peut-être notre quotidien, en quoi ça redéfinit peut-être même la manière d'être humain, de vivre, d'exister, de pratiquer certains lieux, d'effectuer certaines tâches, etc. Donc ce niveau peut-être plus philosophique, plus méta, qui nous demande vraiment en quoi cette numérisation, cette ère du big data redéfinit nos rapports, nos relations entre nous, avec nous-mêmes et avec les espaces que nous fréquentons, que nous pratiquons tous les jours. Et je pense qu'on a là vraiment un mélange absolument parfait de personnes, d'experts sur la question, qui pourront justement apporter plusieurs points de vue, plusieurs angles d'approche sur ce type de questions. Donc je présente, en commençant à votre droite, Philippe Alziger, professeur de sociologie, économique plus spécifiquement, qui a aussi eu donc un projet Digital Life qui vient de démarrer, j'imagine, le 1er décembre, c'était la condition de ces projets, qui travaille notamment, et là c'est directement en lien avec la question du travail, qui travaille sur des sites informatiques ou sur des plateformes informatiques comme Uber, comme Airbnb. Je ne sais pas combien de vous ont déjà commandé des taxis ou des voitures Uber, je ne sais pas si on peut encore dire taxi, je ne pense pas, hein. C'est des Uber, justement. Donc, peut-être ce que vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est que Uber, finalement, travaille aussi par algorithme, c'est-à-dire des softwares qui permettent une sorte de mise en relation, soi-disant optimale, entre l'offre et la demande en termes de déplacement par voiture. Donc Philippe Alziger s'intéresse justement aux implications, peut-être aussi au fonctionnement de ce type de plateforme, et justement aussi à la question de comment ce type de plateforme redéfinit le rapport entre la personne qui offre un certain service et la personne qui va demander un certain service. Parce qu'il s'agit de nouveaux intermédiaires qui sont tous, tout sauf neutres, donc qui ont leur propre logique de fonctionnement, qui ont leurs propres enjeux en termes de pouvoir, en termes d'inclusion, d'exclusion, en termes de priorisation ou encore de discrimination. Et c'est justement un des grands enjeux, une des grandes problématiques de travail pour lesquelles s'intéresse Philippe Alziger. Ensuite, à sa gauche, là, je pense que à sa droite, mais à votre gauche du point de vue de Philippe. Voilà. Daniela Cherqui de l'Université de Lausanne, maître d'enseignement et de recherche, donc une collègue de l'Université de Lausanne qui a accepté de nous joindre ce soir pour compléter la tour de table, les personnes réunies ici, qui pose justement ces questions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, cette question sociétale, ben, en quoi justement cette numérisation, cette technologie automatique, cette technologie disons intelligentes redéfinissent notre société, notre manière de vivre ensemble, mais aussi l'idée même de l'humain. Voilà, la déshumanisation, est-ce que c'est le bon terme? Je pense que c'est une question que vous vous posez, c'est justement, est-ce qu'il faut parler sous ces termes-là? Parce que souvent, justement, une des questions qu'on se pose aussi comme chercheur, c'est la question du vocabulaire, comment aborder, comment conceptualiser, comment problématiser cette thématique, ces problématiques qui nous passionnent, qui nous interpellent. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment de déshumanisation ou est-ce qu'il faudrait peut-être formuler la question en d'autres termes? Ça sera sûrement des questions, des aspects auxquels on touchera tout à l'heure. Donc voilà, cette question vraiment en quoi cette numérisation de notre quotidien touche vraiment à notre quotidien, au plus profond, au plus précis, au plus détaillé de nous et de nos manières d'exister et de nouer des contacts, des relations aux autres. Ensuite, Adrian Bangerter, professeur à l'Institut de psychologie du travail, ici à l'Université de Neuchâtel. Aussi, donc il a aussi actuellement un projet Digital Life, donc ces nouveaux programmes de recherche du Fonds national, sur l'analyse automatique des entretiens de sélection par vidéo. Donc, notamment l'usage d'algorithmes dans des entretiens d'embauche. Les chances, les risques, les possibilités, les limites de automatiquement analyser des entretiens d'embauche à travers des technologies numériques, à travers des algorithmes plus précisément. Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça soulève en termes de danger? Peut-être en termes de mise à distance du candidat, de la candidate, etc. Donc là encore, une problématique spécifiquement liée au monde du travail, mais qui nous permettra très vite, très rapidement, très facilement de monter en généralité et de nous demander plus généralement, finalement, jusqu'où voulons-nous aller avec tout ceci et où voulons-nous nous arrêter en tant qu'individu, en tant que société. Voilà, question à débattre tout à l'heure. Et finalement, le professeur Jacques Savoie de l'Institut d'informatique, aussi de l'Université de Neuchâtel, voilà, qui apporte un savoir peut-être plus pointu au niveau technique, au niveau informatique, parce que finalement, au cœur de tout ça, c'est ce type de savoir. Ce type de savoir s'établit de plus en plus comme le savoir indispensable, hein. Qui veut comprendre l'organisation de la société doit comprendre les algorithmes, les softwares, les technologies qui nous sous-tendent, qui nous organisent, etc. Et qui s'intéresse notamment à la question de l'apprentissage par machine et là encore à la question de l'automatisation, par exemple dans le domaine du marketing ou encore, vous m'avez signalé la thématique précise, par exemple de l'automatisation de la gestion des informations qu'on retire des cartes Cumulus. Donc voilà des cartes fidélité qui évidemment aussi créent des données qui seront ensuite, pas laissées comme ça, mais qui seront travaillées, analysées, et etc. pour peut-être optimiser certains services, mais peut-être simplement aussi en profiter davantage économiquement parlant. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises sur vos intérêts de recherche. Je vous laisse tout de suite compléter, en commençant peut-être à questionner tout ça, par ordre de, voilà, donc je ne vais plus le dire, gauche à droite. Philippe Alziger, en tout cas, va commencer. Donc, premier tour de questions, simplement, donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites plus précisément qui est en lien avec la thématique de la soirée? Et quelles sont pour vous les chances et les risques, les opportunités et les problèmes les plus importants, les plus cruciaux liés à la thématique de ce soir?
Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, Francisco m'a déjà présenté, donc il l'a très bien fait, donc je n'ai pas besoin de corriger ça. Effectivement, donc je vais dire comment je viens à ce sujet, quel est mon intérêt au-delà de l'intérêt que je partage avec les gens qui sont ici de citoyens, mais mon intérêt plus professionnel. Et puis je vais essayer de dire quelque chose sur un peu les chances et risques, mais surtout par rapport à la manière dont moi je vois la question. Donc évidemment, la question de la numérisation, digitalisation en lien avec le travail, il y a différentes questions derrière, ça dépend comment on entend ça. Donc il faut le préciser un peu. Et moi je m'intéresse notamment à ces plateformes digitales, donc ces intermédiaires qui réorganise l'offre marchande, on pourrait dire, et souvent aussi le travail par là, des entreprises qui sont essentiellement des sites web, en fait, où on trouve, ou des applications très performantes, qui fonctionnent avec des algorithmes, qui classent, distribuent et acheminent l'offre vers la demande, on pourrait dire. Donc c'est dans un projet Digital Lives, et puis je voulais dire aussi, par rapport à ça, mon intérêt aussi lié à un grand congrès qu'on va organiser ici. Moi, je suis dans l'Institut de sociologie. Et en septembre, on organise le congrès suisse de sociologie qui portera sur le futur du travail. Et donc, on aura beaucoup d'événements. J'ai mon collègue là qui a l'affiche, qui m'avait promis qu'il allait la soulever. Mais donc, ça permettra de poursuivre. Et ça, du tout, ça nous a poussé aussi de réfléchir pas mal au sein de notre institut à ces questions. Et j'ai plusieurs collègues qui travaillent aussi là-dessus. Alors, juste assez rapidement, Donc ces plateformes-là, donc ils sont de différentes sortes. Clairement, ils constituent des opportunités pour beaucoup de gens, à la fois pour... Parfois, ça donne du travail, hein, ça réorganise le travail, ça réorganise les marchés. Je pense que pour les consommateurs, ça contient beaucoup d'opportunités. Alors, il y a différents types de plateformes. Donc, moi, dans notre projet, on s'intéresse plutôt à l'hôtellerie. Donc, c'est les plateformes comme Airbnb ou Booking. Et on s'intéresse notamment à la manière dont ça change un peu le quotidien et le travail des professionnels. Hein, plutôt du côté des professionnels que du côté des consommateurs. Alors là, une des questions que ça soulève, notamment Airbnb, c'est la question un peu des frontières professionnelles. Qu'est-ce que ça veut encore dire être un professionnel, un hôte par exemple, un hôtelier? Est-ce que tout le monde du coup peut être hôtelier? Est-ce que c'est encore la même chose? Quelles sont les compétences requises, etc. Mais ces mêmes questions, je crois, se posent aussi dont les plateformes qui sont plus directement, qu'on associerait plus directement avec le monde du travail, notamment par exemple l'exemple que tu as mentionné, Uber, mais aussi d'autres, les plateformes de livraison par exemple, ou les plateformes où on fait des petites tâches, par exemple Amazon Turk, où les gens peuvent faire des petites tâches donc, de travail, souvent assez répétitif. Et là aussi quand même, ça ouvre, je dirais, souvent, ça ouvre l'accès à des professions, ça ouvre l'accès à un monde du travail au-delà de la profession qui, avant, avait un certain contrôle sur la profession. On le voit bien dans le cadre des taxis. Hein. Donc, avant, il fallait avoir une licence, donc il y avait certaines personnes seulement qui pouvaient faire ça, donc ils contrôlaient le marché en quelque sorte. Avec l'arrivée d'Uber et d'autres, ça ouvre ça et donc ça questionne ses frontières. Ensuite, donc ça c'est plutôt, c'est entre les chancelleries, c'est un peu une question de point de vue et de position qu'on a, hein, donc ça dépend de ça je crois. Ensuite, évidemment ces plateformes me posent beaucoup de questions ou remettent un peu en question la relation de travail, hein, la question de qui est employé, qui est employeur, est-ce que les gens qui travaillent, est-ce que les gens travaillent pour ces plateformes ou est-ce qu'ils sont indépendants? Et ça a beaucoup de conséquences, la manière dont on va classifier ça, en termes d'assurance sociale, par exemple, en termes de droit du travail, de manière générale. Alors, et par rapport à ça, on pourrait dire, il y a quand même un argument à faire pour dire qu'avec ces plateformes-là, donc généralement, ils refusent, en tout cas, dans un premier temps, alors ça change déjà un petit peu, ils refusaient d'être vus comme employeurs. Donc, ils disaient non, les gens ne travaillent pas pour nous, c'est des indépendants, ils offrent des services. Nous, on ne fait que l'intermédiation. Puis, en quelque sorte, on peut dire, on revient en arrière, hein, en termes de droit du travail. C'est un peu comme au 19e siècle, les gens sont payés à la tâche, ils n'ont pas, un salaire, même pas un salaire à l'heure, et encore moins un salaire mensuel, hein, mais c'est uniquement quand il y a du travail qu'ils vont être payés. Et donc, du coup, c'est quand même, ça pose quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, c'est lié à la technologie, mais je ne dirais pas uniquement. Hein, c'est lié plus largement aussi un peu à une libéralisation du marché du travail. Alors, il n'y a pas forcément une fatalité ni une, simplement une détermination technologique. Je dirais ça fait partie d'un mouvement, d'une évolution plus long terme qui est un peu la précarisation du travail et dans laquelle ça s'inscrit et que ça accentue encore un peu. Donc ça, c'est des questions que je me pose, où je les vois plutôt comme des risques, des dangers, je dirais. Tout en disant aussi qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment une fatalité, mais il y a beaucoup de possibilités d'essayer de réglementer ça, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour la première intervention.
Merci. Alors, à moi de corriger tout ce qui a été dit sur moi. Non, simplement, je vais d'abord en quelques mots me présenter un peu plus en détail, donc prolonger ce qui a été dit de moi. Donc, moi, je suis anthropologue. Le regard que je porte sur la technologie, c'est un regard que je porte sur l'humain, avant tout. Mon parcours de recherche, c'est un parcours qui se décline depuis maintenant une vingtaine d'années, avec principalement des recherches ethnographiques menées dans des laboratoires d'ingénieurs, qui conçoivent. Alors à la base, mon intérêt portait surtout sur les technologies implantables ou potentiellement implantables. Donc sur cet humain qu'on machinise de plus en plus. Maintenant, par humain machinisé, j'ai élargi mon champ d'intérêt. Donc j'ai commencé par les implants, vraiment les implants techniques dans le corps humain, pour ensuite m'intéresser aussi à la génétique, voire même aux médicaments, enfin toutes sortes de technologies au sens large qui machinisent littéralement l'humain. Il y a aussi tout un aspect métaphorique là derrière, hein, qui, dans un jeu de miroir entre le robot, en l'occurrence, et l'humain, de manière métaphorique, prolonge tout l'imaginaire mécaniste en lien avec le corps. Et petit à petit, ben, mes explorations dans les laboratoires m'ont amené aussi à m'intéresser à la robotique comme étant, pour moi, c'est comme une pièce de monnaie avec ses deux revers absolument indissociables l'un de l'autre. D'un côté, cet humain auquel on intègre des pièces mécaniques, et de l'autre côté, cette machine à laquelle, petit à petit, on délègue de plus en plus de compétences qui, jusque-là, étaient des prérogatives humaines. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais d'abord la force physique, puis la décision, puis maintenant, plus récemment, l'aspect relationnel. Moi, je dirais que dans le domaine du travail, c'est plutôt cette délégation relationnelle à des machines qui, de plus en plus, pourraient remplacer et déjà remplacent les humains dans des activités de soins. Et à partir de là, ben, je me pose toute une série de questions qui, effectivement, ont été soulevées déjà de manière sous-jacente dans l'introduction qui a été faite. Par exemple, on parle de technique intelligente. Vous avez évoqué plusieurs fois le terme de technique intelligente. Ben, c'est quoi l'intelligence ? Quand on a commencé, dans les années 50, à dire que le jour où une machine battrait un humain aux échecs, ça serait l'intelligence artificielle. Puis après, c'est arrivé, et puis on a dit, mais non, l'intelligence humaine, c'est bien plus que ça. Enfin, la notion d'intelligence, on pourrait passer une soirée entière d'un café scientifique à débattre des différentes conceptions de l'intelligence et de ce que le fait qu'on parle de machine intelligente, de comment le fait et pourquoi le fait qu'on parle de machine intelligente, quelque part, reformate la définition que nous nous faisons de notre propre intelligence. C'est là que je dis qu'il y a aussi une machinisation symbolique de l'humain, me semble-t-il, qui, après avoir délégué des aptitudes à la machine, se redéfinit lui-même en fonction de cette machine. Maintenant, ce que j'aimerais faire en deux mots, c'est peut-être reposer la question des chances versus risques à ma manière, parce que poser la question en ces termes, c'est sous-entendre tout un monde d'implicite, c'est-à-dire c'est supposer qu'il y a des risques. Alors ces risques, on va s'en préoccuper. On va s'en préoccuper avec des réflexions éthiques. On va s'en préoccuper avec des réflexions juridiques. On va essayer de cadrer ça. Mais ces risques, on oublie, et je pense que c'est là le nœud de la réflexion anthropologique, qui s'appuie sur tout un monde d'implicites relatifs à ce que sont les chances. C'est-à-dire que les chances, on ne va pas les interroger. On va dire, ben là, il y a toute une série d'opportunités, et toutes ces opportunités, on ne va pas faire l'effort d'expliciter le système de référence auquel elle se relie. Ce qui veut dire que, enfin, pour le dire autrement, moi disons que la question que je me pose en termes de chance ou de risque, ce sont les risques qui découlent des chances. C'est-à-dire les chances, c'est tous ces bons usages qu'on n'interroge pas parce qu'ils nous semblent bons. Mais il faut se demander en termes anthropologiques vers quel type de société on va. Si toutes ces chances sont saisies, quel est le modèle de société, quel est le vivre ensemble vers lequel on va, et donc interroger le bout du chemin des chances et pas celui des risques. Voilà. Au suivant.
Bonsoir, donc Adrien Bangerter, professeur de psychologie du travail.
Faire, c'est vous montrer un site web que j'ai sur mon smartphone. Vous avez certainement entendu parler des prédictions d'experts ces derniers mois, comme quoi dans les années à venir, il y aurait, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est un chiffre faramineux, donc c'est des centaines de milliers d'emplois en Suisse qui vont disparaître
aussi des emplois qui vont être créés, donc des nouveaux emplois qui vont naître, des emplois qui vont disparaître. Et vous pouvez aller sur ce site web qui s'appelle « Will robots take my job ?» Donc c'est, vous pouvez saisir un métier. Là, j'ai saisi le métier de boucher. Et puis, il va vous calculer le pourcentage, ici le pourcentage 93% de chances que le métier de boucher disparaisse dans un horizon assez proche, 2024.
On essayait avec enseignants universitaires.
Ah oui, c'est ah, ça a été fait par des enseignants universitaires. Non. Mais, ça pose la question, en fait, de la flexibilité du travailleur. Donc, les travailleurs qui sont en fonction aujourd'hui devront peut-être se réorienter. Tout le monde devra peut-être se réorienter plusieurs fois au cours de sa vie. Donc, le développement professionnel prend une toute autre dimension. Alors, il y a un terme, ça exige aussi quelque chose qu'on appelle l'employabilité de la part du travailleur, donc que le travailleur sache se réinventer, se présenter, devenir son propre acteur, en quelque sorte, de son destin professionnel. Et donc, je suis, en tant que psychologue du travail, je suis spécialisé dans le recrutement et la sélection du personnel, donc je m'intéresse à cette première rencontre entre un employé potentiel et un employeur potentiel. Vous avez déjà, par exemple, vécu des entretiens d'embauche, vous avez participé à des entretiens d'embauche en tant que recruteur ou en tant que candidat. Et dans ce genre de situation, on s'intéresse à... le recruteur s'intéresse à trouver un employé qui sera assez performant, pas trop dysfonctionnel, qui va rester longtemps dans l'entreprise. Le candidat, de son côté, cherche un emploi qui sera sympa, bien payé, qui lui permettra de performer, etc. Donc, on a toute une palette d'envies, d'intérêts à découvrir des choses chez l'autre partie. Et la question qu'on peut se poser dans ce contexte, qu'on se pose en tant que psychologue du travail, c'est quelles sont les caractéristiques pertinentes pour prendre une décision d'embauche. Donc, chez le candidat, quelles sont les caractéristiques pertinentes pour pouvoir prédire en quelque sorte si ce candidat sera à l'avenir un employé performant ou pas. Et une autre question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer ces caractéristiques de manière fiable, hein? Donc, on s'intéresse à des choses comme l'intelligence, comme la personnalité, comme la motivation, et comment est-ce qu'on peut saisir ces caractéristiques de manière fiable. Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus d'une centaine d'années. Ce n'est pas nouveau, ce genre de choses. Ce qui est assez nouveau, c'est que de plus en plus viennent sur le marché des algorithmes qui chamboulent un petit peu la problématique du recrutement, parce qu'il est possible maintenant, avec des algorithmes, de mesurer de manière automatique, avec une certaine fiabilité, les traits de personnalité des gens. On n'a plus besoin de leur faire passer un test de personnalité, mais on peut aller en ligne, et de par leur comportement en ligne, donc est-ce qu'ils vont traîner sur des sites comme Facebook, qu'est-ce qu'ils vont liker, qu'est-ce qu'ils vont regarder, on peut déduire en quelque sorte, avec ces algorithmes, des traits de personnalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'interaction sociale qu'il y a entre le recruteur et un candidat. Et il y a un nouveau développement qui prend de plus en plus de place, c'est ce qu'on appelle les entretiens vidéo. Donc, si vous êtes un candidat ou une candidate, on va vous demander on va vous envoyer une liste de questions d'entretien, c'est des questions assez typiques, puis on va vous demander de vous enregistrer en vidéo, par exemple avec la webcam de votre ordinateur, en train de vous répondre, de répondre à ces questions. Donc vous lisez la première question, vous répondez, vous enregistrez. Quand vous avez fait tout ça, eh bien vous téléchargez le fichier qui sera envoyé à une entreprise dont c'est la spécialité est d'analyser votre comportement et de donner une recommandation à son mandataire, qui est typiquement une entreprise. Alors donc, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière cet algorithme, c'est des programmes qui sont capables de détecter, par exemple, combien de fois la personne va sourire sur la vidéo, est-ce qu'elle va regarder la caméra, est-ce qu'elle va gesticuler, et comment, et aussi ce qu'elle va dire. Donc, on est capable d'analyser automatiquement le contenu, on va chercher un certain nombre de mots-clés de ce que les gens racontent. Alors, c'était une technologie qui est encore assez balbutiement, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors, en parlant de promesses de risques et d'opportunités, on promet une plus grande efficacité de gestion des candidatures pour les entreprises en question. Il y a toute une série de risques, en fait, qui émergent aussi et dont on devient conscient maintenant. C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Alors, il y a plusieurs compagnies qui utilisent ces algorithmes de manière propriétaire. Donc, ce n'est pas des choses qui sont disponibles. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas comment l'algorithme fonctionne. Et il y a des risques, par exemple, que l'algorithme soit biaisé, qu'on ait de la discrimination de certaines catégories de personnes. Et on a aussi le risque que le candidat soit, disons, complètement désemparé par rapport à cette procédure de sélection. Donc, dans le projet Digital Lives que nous avons actuellement, on essaye de faire en sorte pour développer des algorithmes qui puissent donner un feedback, un retour au candidat pour les aider à se former et mieux se préparer à cette situation qui est assez nouvelle. Et on peut discuter, je pense que c'est une thématique générale, la question, disons, des relations entre employeurs et employés du point de vue des relations de pouvoir qui sont en train de changer. Voilà.
Merci. Je suis le technicien qui va vous générer des algorithmes. Alors, les trois premières personnes vont se préoccuper des conséquences de ce que je vais proposer de faire ou de ce que mes ordinateurs vont faire. Je travaille ici depuis une vingtaine d'années, je donne des cours d'intelligence artificielle et ce qui s'est passé il y a à peu près une dizaine d'années, c'est le phénomène Big Data avec notre fameuse, par exemple, carte Cumulus. On s'est retrouvé devant une montagne de données et on s'est dit, est-ce qu'on peut les exploiter, ces données? Et puisque on s'est rendu compte que finalement, en détectant un certain nombre de patterns, de modèles dans ces données, on arrive à trouver des réponses à un certain nombre de questions. Alors, mes exemples favoris sont tout ce qui a trait au texte. Par exemple, quelque chose d'anodin, est-ce qu'un texte est écrit par un homme ou par une femme? Voyons, ça c'est pas possible. Je vois pas comment une machine pourrait me dire, avec un degré de fiabilité relativement haut, si le texte est écrit par un homme ou une femme, c'est quelque chose d'impossible. Je ne vois pas, est-ce qu'il y aura un trait masculin dans l'écriture d'un texte, des traits féminins? Oui, il y en a. Comment ça? Les traits féminins? Les femmes utilisent beaucoup plus de pronoms que les hommes. Une phrase féminine, j'espère que tu vas l'apporter, parce qu'ils viendront ce soir et qu'ils auront besoin de cela. Oups. Donc vous avez un certain nombre de pronoms qui s'y trouvent, et c'est assez typique d'une phrase ou d'un dialogue féminin. Les hommes préféreront utiliser les mots plutôt que les pronoms. J'espère que tu auras apporté les commissions parce que tes parents viennent et qu'ils auront besoin du sac à commission. Anodin. On peut même déterminer l'âge des personnes. Hein? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est jeune, disons pas l'âge précis, 15-18 ans, ou quelqu'un de plus âgé? Par exemple, quelle classe d'âge utilise plus le passé dans ses constructions de verbes? J'ai fait ceci dans le passé. Quelle classe d'âge utilise plus le futur? Je vais faire ceci, j'irai, etc., etc. Les jeunes utilisent beaucoup plus le passé. J'ai fait le parti, j'ai fait ceci le week-end passé, etc. Les personnes âgées comme nous utilisent plus le futur. Vous laissez des traits dans les textes. Maintenant qu'on a appliqué ceci avec des exemples simples, on peut retrouver maintenant vos traits psychologiques. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti ou plutôt quelqu'un d'extraverti qui aime bien socialiser, travailler en groupe, avoir des relations sociales, etc., etc. Donc tous ces éléments sont des choses que les machines ont appris à apprendre. Alors en dehors du texte, par exemple, j'ai un autre exemple, au MIT, ils ont sorti une machine, un robot, qui est capable de faire des œuvres d'art. Alors actuellement, on nous a présenté ici l'exemple de la peinture. On est moins bon sur les poèmes et sur les récits pour créer des romans, par exemple, ou des choses comme ça. Mais vous voyez qu'on arrive avec l'apprentissage, montrer plusieurs exemples et des contre-exemples à extraire un certain nombre d'informations. les chances, les problèmes, les risques. Alors, les gros problèmes que l'on a, ils sont de différentes catégories lorsqu'on crée des algorithmes. Vous avez le problème, par exemple, des cartes cumulus de fidélité. Ces cartes, en fait, elles sont distribuées à tous mes consommateurs et toute l'information que j'obtiens est extrêmement précise et sans bruit, sans erreur. Le problème que j'ai, c'est de traiter le volume d'information. Là, on arrive relativement bien maintenant à traiter ce volume d'information, même si vous êtes une grande compagnie, par exemple, comme les grands centres Migros Europe. Maintenant, vous déplacez, vous allez sur le web ou sur Internet, sur les blogs, parce que votre problème, quelle est l'image de ma société sur les blogs, sur le tweet? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient menacer l'une de mes marques ou qui menaceraient la réputation de ma compagnie? Donc, on va essayer de détecter ces phénomènes-là. Et le phénomène qu'on a ici, c'est le volume, mais aussi beaucoup de bruit. Les mots possèdent plusieurs sens. Et il n'est pas toujours évident pour la machine de savoir quel est le sens précis que l'on a sur un tweet ou sur un blog. Les problèmes se posent aussi, mais ça ne concerne qu'une partie de notre société, c'est les archives qui se trouvent noyées sur des volumes d'informations numériques, ne sachant plus très bien ce qu'il faut conserver ou pas. Donc les problèmes pour nous, informaticiens, sont souvent liés au volume et au fait qu'il y a pas mal de bruit dans l'information qu'on trouve. Les risques. Ben, revenons sur nos textes. Alors, j'explore ce que vous avez écrit sur le web, ou les likes que vous avez postés, j'aime pas, sur Facebook. Avec une centaine de ces informations, le like, je peux vous connaître aussi bien que votre partenaire. Avec 200 de ces likes et tweets, je vous connais mieux que votre partenaire. Quel est l'effet? Eh bien, l'Américain a fait une étude. Ils ont pris seulement un des caractéristiques qui intéressaient chez les femmes, c'est savoir si elles étaient plutôt introverties, réservées ou plutôt extraverties. Dans la deuxième catégorie, introvertie, ils ont plutôt envoyé une image, publicité, sur laquelle on voyait qu'une seule personne devant son miroir essayant son nouveau rouge à lèvres. Dans la personne qui est plutôt extravertie, qui aime voir le monde, on a présenté une photo, en fait, un party avec beaucoup de monde qui danse, etc., pour vanter les qualités du rouge à lèvres. L'effet, l'entreprise a eu 50% de plus de clics sur leur produit qu'une publicité normale, c'est-à-dire la même publicité à tout le monde. Donc, il y a un gain et un intérêt ici commercial évident de pouvoir maîtriser ces technologies. Le risque, c'est que la même technologie peut être utilisée pour vous vendre un politicien ou pour vous faire voter d'une certaine manière. Et on l'a vu qu'avec Cambridge Analytica et l'élection américaine en 2016, ces techniques sont utilisées dans ce monde-là. On aurait aimé, ça c'est les chances, pouvoir utiliser ces techniques pour, par exemple, vous prévenir sur l'anorexie. On a des études, on essaye de trouver. Lorsque vous promenez sur Internet, vous écrivez, lancez des tweets. Est-ce qu'on arrive à détecter relativement vite que vous avez une tendance au suicide, que vous avez une tendance à l'anorexie, tendance à plonger du côté des drogues, pour en fait tout de suite vous aider ou intervenir? Parce que ça, c'est un peu des choses qu'on aimerait faire et on travaille sur ce genre de technologie qui serait un peu les chances que je vois pour ces technologies.
Grand merci de cette fascinante première tour de table. Est-ce que parmi vous quatre, vous souhaitez faire des commentaires sur ce que vos collègues ont dit, compléter? Oui, bien sûr.
Oui, alors j'aimerais tout de suite rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai été très interpellée par l'exemple du rouge à lèvres et des politiciens, parce que je trouve que c'est un bon exemple de ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Vous évoquiez aussi avant la question de l'efficacité. Je ne sais plus ce que vous avez dit comme mauvais usage, mais il y avait d'un côté, voilà, on voit que c'est plus efficace, voilà, et puis, mais l'efficacité, c'est efficace. Et maintenant, avec l'histoire du rouge à lèvres, on retrouve la même chose. Je veux dire, il y a un marketing qui est plus efficace. Maintenant, entre l'histoire du rouge à lèvres et l'histoire du vote, il est où le curseur? C'est pour vendre un rouge à lèvres, ils ont vendu ça plus efficacement. Bah, très bien, ça fait de mal à personne. Tout à coup, on parle de politique, on a l'impression que on est dans la manipulation. Donc du coup, c'est comme s'il y avait un curseur entre ce qu'on considère comme le bon usage et ce qu'on considère comme le mauvais usage. Et déjà, on ne met pas tous la limite au même endroit. Et du coup, je trouve que c'est un bon exemple. Parce que moi, ce que j'entends comme anthropologue, c'est que, bon, imaginons que le rouge à lèvres soit considéré comme un bon usage et que le politicien soit considéré comme un mauvais usage. Moi, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit pour vendre un rouge à lèvres ou pour faire voter pour quelqu'un, moi, ce que je retiens, c'est la notion d'efficacité qui est derrière. Et je m'interroge quant à une société qui vise à tout prix l'efficacité. Voilà.
Vous voulez réagir ?
Mon problème, c'est de trouver les algorithmes les plus efficients, le plus rapide possible, le plus précis possible. Évidemment, quand on travaille, ce que le j'ai dans la tête, c'est l'anorexie, c'est le suicide, c'est lorsqu'on a un chat avec des jeunes, de repérer si par hasard il y a un prédateur sexuel, quelqu'un de 40 ans qui arrive, très certainement n'ayant pas le même mot, le même vocabulaire que les jeunes, on arrive à le détecter assez vite, puis à l'interdire dans le chat. C'est plutôt ce genre d'application que l'on pense. Évidemment, après, on peut prendre l'algorithme et le réutiliser dans un autre contexte, c'est clair. Que je n'ai pas prévu forcément.
Je pense, pour moi, ce qui ressort déjà, et puis c'est vrai que ma question, elle était aussi un peu une question piège, ou en tout cas, elle me guide vers une autre question, ou une autre interrogation, c'est la question aussi de la normativité. Nous tous, nous travaillons chacun, chacune à sa manière sur un phénomène de société, un phénomène qui imprègne notre quotidien au plus profond imaginable. Et puis nous tous, nous avons aussi notre propre lien, notre sensibilité, nos questionnements, notre manière, nous, de réfléchir justement sur les risques, les chances, ou encore les risques dans les chances, etc. Et comment nous positionner en tant qu'experts, comment nous positionner en tant que société vis-à-vis de ceci, c'est ça tout l'enjeu, c'est ça toute la question, toute la problématique, je pense, qui se pose aujourd'hui. Justement, cette question, bah, finalement, qu'est-ce que nous voulons faire et comment chacun, chacune, à sa manière, contribue à faire avancer ou à freiner, à réorienter, etc., cette évolution, ce phénomène. Moi, je pense qu'il faut en rester là pour un premier tour de table, pour tout de suite ouvrir le débat au public. J'imagine, avec toutes les éléments qui sont ressortis de cette première discussion, il y a amplement de quoi débattre. Je m'intéresse beaucoup de voir quels sont les éléments qui vous interpellent le plus. Donc, faisons un premier tour de table et je pourrai toujours par la suite relancer le débat de mon côté. Oui, monsieur.
J'ai l'impression, quand j'entends ce qu'on a entendu déjà là, qu'on a de la peine à juger la différence entre les problèmes de l'être humain, les problèmes de l'homme et les problèmes des outils qu'il utilise. En fait, les problèmes des outils étaient préexistants. Ils sont peut-être amplifiés par les outils, mais ils étaient préexistants dans l'homme au départ, me semble-t-il.
J'ai travaillé aussi sur les moteurs de recherche. Alors, une des questions qu'on s'est posées, est-ce que vous utilisez un autre moteur que Google ? La réponse est non. Êtes-vous satisfait ? Oui. Et Google, en fait, se trouve dans une position quasi de monopole. Donc, pour orienter vos demandes, parce que je cherche un livre, je cherche un réparateur pour la cuisine, je cherche une voiture, pour orienter toutes ces demandes vers plutôt des firmes, disons, américaines ou qui auraient passé un contrat avec Google. Et en fait, on a fait un certain nombre de tests, enfin, les Australiens ont fait un certain nombre de tests pour voir, au niveau des livres, est-ce que Google est biaisé pour favoriser, par exemple, systématiquement Amazon, ou pour favoriser systématiquement des firmes américaines. Et jusqu'à présent, la réponse a été négative. On n'a pas trouvé un biais pour que Google soit associé plus fortement aux entreprises américaines. Elle est, par contre, fortement influencée par des compagnies comme Amazon qui savent très bien tirer parti de la manière dont Google fait son travail de recherche des pages dans l'Internet. Mais ça, en fait, tout le monde a plus ou moins les informations. Si vous faites plus ou moins bien votre site web, vous avez plus de chances ou moins de chances d'être récupéré et puis d'être annoncé par Google. Mais c'est aux compagnies, en fait, de faire un travail ici d'investigation, simplement pas de mettre quelques pages d'informations simples pour essayer de vendre des produits. C'est un peu plus compliqué que ça.
Je pense, je peux rebondir là-dessus. Enfin, moi, je trouve intéressant cette question des algorithmes. Enfin, même le terme même de l'algorithme, il me semble qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas quelque chose qu'on utilisait comme ça de manière courante. Moi, je l'utilisais très rarement. Et puis, petit à petit, tout le monde est venu à intégrer ça dans son langage quotidien. Et aujourd'hui, tout le monde sait à peu près, en tout cas, a une idée de ce que c'est et sait que c'est devenu important. Enfin, ça, c'est un peu. Mais donc, je trouve que c'est intéressant, ce pouvoir de l'algorithme qui semble être, ou des algorithmes, qui est une question importante aujourd'hui, qui est aussi, dans mon cas, sur les plateformes, par exemple, qui a clairement des implications sur les travailleurs. Hein. Ils sont soumis, je dois dire, à cet algorithme, par exemple, si vous êtes chauffeur Uber ou livreur pour une plateforme. Enfin, en quelque sorte, cet algorithme va déterminer si vous obtenez, si vous pouvez faire cette course ou pas, si vous obtenez beaucoup de courses ou des bonnes courses, enfin, ce genre de choses. Et en même temps, l'employé, dans ces cas-là, ne sait pas vraiment grand-chose sur cet algorithme. Hein. Il connaît pas, enfin, c'est un truc très technique, c'est aussi un secret, généralement, c'est un secret des entreprises, hein, donc qu'ils gardent très bien. Alors, je pense que souvent, dans beaucoup de cas, ces algorithmes, ça nous arrange beaucoup. Hein. Netflix, je suis très content qu'ils ont un bon algorithme, qui me propose des films qui me plaisent ou des séries qui me plaisent. Mais dans d'autres cas, ça peut avoir des effets évidemment plus graves. Et donc, ça, c'est un peu la question du curseur. Et moi, je pense qu'il y a clairement un débat à avoir là sur est-ce que ces algorithmes-là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient publicisés dans certains cas, donc, et puis réglementer, et c'est ce que l'exemple que vous disiez, par exemple, est-ce que Google privilégie certes, typiquement, ce serait quelque chose, s'ils le font, et si c'est leur algorithme qui fonctionne comme ça, ça devrait être interdit, et puis il faudrait réglementer. Donc il y a une question du pouvoir de l'algorithme, mais des capacités, je dirais, de la société civile ou du politique, de pouvoir réglementer ou démocratiser certains de ces algorithmes, en tout cas ceux qui sont aussi puissants. Et là encore, je pense que c'est quelque chose qui va, à mon avis, qui va arriver. Le débat il est déjà là. Et puis, il y aura clairement des choses qui vont se passer de ce côté-là. Ou il devrait y avoir.
Juste pour revenir aussi à votre question, moi, comme je l'entends, ça porte aussi vraiment sur la question, finalement, avec tous ces algorithmes, toutes ces nouvelles technologies, qu'est-ce qui change véritablement ? Fondamentalement, et, bien sûr, aujourd'hui, on va faire les choses différemment parce que justement, c'est d'autres technologiques, mais dans le fond, est-ce qu'on choisit, par exemple, dans votre cas, M. Bangerter, un candidat selon une autre logique qu'autrefois ? Est-ce que justement l'algorithme, le nouveau intermédiaire, change notre logique d'engagement ou pas ? Et c'est ça pour moi la question. Finalement, avec tout ceci, est-ce qu'il y a vraiment, ça touche fondamentalement notre société, notre quotidien, notre travail, notre logique d'employer des gens, ou finalement c'est juste par un autre moyen, c'est juste par un autre chemin qu'on avance ? Et je voulais vous entendre là-dessus, dans votre cas précis, concret, qu'est-ce qui change véritablement du point de vue de la rationalité même de la décision, par exemple ?
Oui, merci pour la question. Donc, d'un certain côté, non, ce n'est pas un changement fondamental parce que on a, depuis plus d'une centaine d'années, on sélectionne les gens avec des tests, par exemple, notamment des tests d'intelligence. Ça, c'est aussi un algorithme. On a les tests de personnalité aussi, d'autres procédures. Un recruteur qui combine différentes informations puis qui fait sa petite cuisine pour donner plus de poids à certains éléments que d'autres, ça c'est aussi un algorithme. Donc tout ça, c'est pas nouveau en fait. Ce qui est, je crois savoir, et ça c'est mon collègue informaticien qui le dira, c'est que les informations qui sont utilisées par ces algorithmes sont des informations qui sont publiques. dans la version classique du recrutement, la personne vient passer une batterie de tests. On fait aussi ce qu'on appelle des assessments. Donc les gens, ils viennent pour faire un certain nombre d'exercices. Ils sont observés par des observateurs qui vont les noter sur différents critères. Et donc les gens, en quelque sorte, ils consentent à faire passer ces procédures. C'est des procédures assez onéreuses. Ça prend une journée, ça prend des heures. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que les informations peuvent être récoltées parfois de manière automatique à partir du comportement que les gens ont en ligne. Ce qui est aussi nouveau, c'est qu'on dispose d'un grand volume de données qui permet des inférences parfois, tu as donné des exemples parfois assez inquiétants. Et donc, la question aussi, ici, donc, est-ce que ce qui n'est pas important, c'est que le candidat ou le travailleur de manière générale ait une certaine zone, sphère privée qui reste, disons, cachée ou privée. Hein. Là, ce que ces algorithmes, ces nouveaux algorithmes amènent, c'est potentiellement, en tout cas selon les choses qu'on raconte, l'idée d'une transparence absolue qui n'est pas forcément à l'avantage dans une relation d'employé-employeur, dans n'importe quelle relation en fait. On pourrait se demander, est-ce que la transparence absolue est quelque chose de bénéfique. Voilà.
Il y avait monsieur, je crois, juste avant. Okay. Mais
oui, bonjour. Jacinto Couvi, donc postdoc à l'Institut de sociologie. Une question et un petit commentaire. Ma question, puisqu'on a l'occasion d'avoir l'informaticien, en général les sociologues ont débat de ces questions, mais on n'a pas un informaticien à qui poser les questions. Donc je vais en profiter, Monsieur Jacques Savoie. Vous êtes présenté comme quelqu'un qui produit ces algorithmes, n'est-ce pas? Et cette idée peut-être un peu catastrophiste que l'on se fait certains qui ne connaissent pas toutes ces technologies, c'est que ce sont des algorithmes qui de plus en plus gouvernent l'humain. Or, en vous présentant comme celui qui produit les algorithmes, vous placez l'humain, donc avec vos compétences et vos valeurs, etc., au-dessus de l'algorithme que vous produisez, qui peut-être éventuellement va nous gouverner à son tour. Mais il y a quand même de l'humain à la base. Est-ce que vous n'avez pas cependant la crainte qu'éventuellement une machine va pouvoir faire ce que vous faites ? C'est-à-dire une machine pourra éventuellement, une machine avec son algorithme à elle, pourra produire les algorithmes que vous produisez aujourd'hui, et donc vous remplacer de même qu'on peut craindre qu'une machine va nous remplacer aussi en tant qu'enseignant ou en tant que boucher. Et à ce sujet, ma réflexion, c'est que donc j'organise ce congrès sur le futur du travail. Oui, j'en profite encore. Et je passe ma journée à envoyer des emails en tant qu'organisateur de ce congrès. Alors, pour un postdoc, c'est un peu frustrant parce que c'est quand même quelque chose que n'importe quelle machine pourrait faire. Et donc, quelque part, je me dis, ça m'agace. Pourquoi est-ce que j'ai dû faire tant d'années d'études pour envoyer des emails à longueur de journée? D'autre part, je me dis peut-être que si ils avaient une machine pour faire ça, je n'aurais pas mon poste de postdoc. Donc, en même temps que ça m'agace, ça me soulage un peu. Et là, ma réflexion, c'est qu'en fait, on parle souvent de ces technologies et de leur impact sur le travail et sur les opportunités, en partant du principe que ces technologies, elles existent et que tout le monde sait s'en saisir. En tout cas, que les organisations savent s'en saisir. Mais pour des tâches aussi simples, aussi basiques que celles que je passe mes journées à faire, il se trouve que les technologies existent, mais que l'université, ou en tout cas l'institut auquel je suis rattaché, n'a pas soit les ressources, soit les connaissances pour s'en servir. Alors peut-être heureusement pour moi, mais mon point là-dessus, c'est que ce n'est pas seulement une histoire de savoir si les technologies ont cet impact sur le travail, c'est aussi une question de savoir comment la société qui produit ces technologies a les moyens de les utiliser ou pas. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a aussi souvent beaucoup de décalage. Voilà, merci.
Je propose de réagir d'abord à la première question et ensuite la deuxième, et que peut-être concerne les autres.
Alors, mon ami Adrien a trouvé la réponse pour moi. J'ai 2% de chance qu'on robotise mon travail. Pour moi, c'est une chance, c'est savoir ce qu'on arrive à me remplacer par une machine, etc. Dans mon travail, ce que je retrouve, c'est l'humain. Par exemple, une des questions qu'on se pose, est-ce que Juliette, dans Roméo et Juliette, parle comme une fille? Non, elle ne parle pas comme une fille. C'est des applications, puis pourquoi les jeunes parlent au passé, pourquoi les personnes âgées parlent au futur? On a des découvertes de ce type-ci. Ce que l'on voit, c'est aussi l'évolution de la langue. Dans le futur en français est en train de disparaître. Je rédigerai demain un rapport, c'est fini. C'est le verbe avoir qui vient en place. Je vais rédiger ou je ferai un rapport demain. Donc on voit ici des phénomènes comme ceci, l'évolution de la langue à travers en fait ces modèles lorsqu'on présente ce qui discrimine possiblement les textes écrits par les hommes ou par les femmes ou selon l'âge, etc., etc.
Madame Cherqui, voulez-vous répondre au deuxième point peut-être sur la question de la société telle qu'elle s'en sert ou pas de ces technologies?
Je ne pense pas être la personne la plus compétente pour répondre à cette question-là, parce que, parce que la question elle porte sur finalement pourquoi on a des opportunités dont on ne se sert pas. Là, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, ma question, elle est plutôt... Pourquoi, enfin dans le cas où on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Moi, quelque part, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'entendre qu'on n'utilise pas systématiquement. C'est même un contre-exemple que j'apprécie que d'entendre qu'on peut avoir les technologies modernes pour faire quelque chose et ne pas les utiliser. Alors, je suis sensible à l'exemple, hein, ce n'est pas ça la question. La question, elle est que moi, ce que je constate plutôt d'habitude, c'est qu'on est dans une société dans laquelle tout ce qui est techniquement possible est fait. D'où un emballement souvent dans un certain nombre de domaines. Et du coup, moi, je prends plutôt comme une bonne nouvelle sur le fond ce que vous dites, mais je n'ai pas de réponse.
Monsieur avait une question. Oui, je vais peut-être.
Je reviens un tout petit peu en arrière et j'enchaîne sur ce que disait Adrienne Bangerter. Quand je t'écoutais, Adrienne, j'avais envie de dire « Et la séduction, où est-elle ?» Et je me suis rappelé un petit incident, enfin une anecdote. J'avais un ami qui était recruteur, qui était psychologue recruteur. Il devait recruter un cadre pour une PME. Et il trouve 5 personnes qui sortent du lot, il les examine et il détermine le candidat idéal qu'il soumet à l'employeur, hein, au patron. Et le patron dit « Non, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas Pierre, je veux Jacques. » Débrouille-toi pour me faire un profil qui mette en avant Jacques. Pourquoi ? Ben, il avait rencontré ces 5 personnes et il avait été séduit par Jacques. Et il a engagé Jacques, le psychologue a fait un rapport qui mettait Jacques en avant. Il a été séduit par Jacques. Il est devenu son successeur après 5 ans. Il cherchait quelqu'un qui lui ressemble. Pas seulement une personne qui a des qualités, des traits, de personnalité, d'intelligence, de sociabilité, ou que sais-je encore, il cherchait quelqu'un qui le séduise. Est-ce que, ma question est celle-là, est-ce que l'algorithmisation de la société, en fait, ne va pas tuer la séduction, c'est-à-dire cette chose impalpable qui fait que l'on peut collaborer, que l'on peut travailler ensemble, que l'on peut s'aimer, que l'on peut s'apprécier, etc. Merci.
Merci. Oui, alors, excellent commentaire. La séduction, je pense que c'est important parce que c'est une métaphore qui est tirée d'un autre domaine des relations interpersonnelles qui sont justement les relations romantiques, hein. Et puis, on sait aujourd'hui que les relations romantiques sont aussi de plus en plus algorithmisées. Donc, ça permet d'optimiser un certain nombre de choses, peut-être d'être plus efficace, de ne pas perdre son temps avec des partenaires potentiels dont on sait que ça ne va pas marcher. Ce qui est intéressant, c'est...
Beaucoup de gens perdent beaucoup de temps sur les sites de rencontres.
Oui, mais imaginez que vous deviez... discuter avec toutes ces personnes, imaginez-vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un autre problème qui est la question... Donc, plus on a de choix, ça, c'est des expériences anciennes en psychologie qui le montrent, plus on a de choix, moins on est satisfait, en fait, avec le résultat de son choix. Donc, vous pouvez donner à des gens la possibilité de choisir devant un supermarché entre 5 confitures, Et puis, on leur demande le goût de chaque confiture, quelle ils vont choisir. Puis, ils vont être plus satisfaits avec la confiture qu'ils choisissent que s'ils ont le choix entre 15 confitures différentes. Hein. Alors, je dirais que le problème de la séduction, il est peut-être moins prégnant dans l'utilisation de ces algorithmes pour des présélections, où on n'a pas besoin de séduire, on a juste envie de pas perdre son temps avec des gens qui sont potentiellement pas intéressants. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait souffrir. Et la séduction, donc, qui dépend aussi d'une zone, je dirais, d'intransparence, en fait.
Un peu peut-être pour vous rassurer, les algorithmes ont aussi leurs limites. On ne peut pas tout faire avec les algorithmes. Je vous ai simplement signalé au début qu'il y avait le volume d'informations qui pouvait poser problème. Si vous voulez une réponse rapide pour savoir quel est le produit le plus vendu avec les oranges à la Migros, ce n'est pas en millisecondes que je vais obtenir la réponse. Mais il faudra quelques heures, puis je vais obtenir la bonne réponse. Le deuxième, et c'est le seul problème sérieux avec le web, c'est le bruit, le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont très similaires, mais qui n'ont rien à voir. Alors, deux, trois exemples. Par exemple, certains sont satisfaits des recommandations de Netflix. Vous avez vu tel ou tel film, nous vous conseillons tel ou tel autre. Amazon, vous avez acheté tel livre, nous vous conseillons tel ou tel autre livre. Et dans tous ces algorithmes de recommandation, finalement, très vite, vous allez vous rendre compte qu'on tourne en rond. Si brusquement, on a repéré que vous aimez plutôt des films d'action modernes, on va sans arrêt vous répéter tout le temps les mêmes séries de films. Donc, ça va vous entraîner dans une boucle où finalement, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres films qui m'intéresseraient, mais malheureusement, mon profil est tel que l'algorithme n'est pas assez intelligent pour voir qu'en dehors des films d'action, c'est peut-être d'autres aspects qui m'intéressent, qu'on peut retrouver dans d'autres films, exactement similaire pour d'autres livres.
Oui, je voulais aussi rebondir sur cette question et même peut-être faire un lien entre les deux questions de tout à l'heure, parce que c'est toute la question de la déshumanisation que vous évoquiez en préambule qui me vient à l'esprit en vous écoutant parler de séduction. Et là où je fais le lien avec votre question, c'est que, en tout cas telle que je l'ai comprise, bah oui, de mon point de vue, la technique est une concrétisation. Là, je paraphrase Gilbert Simondon, philosophe des techniques, qui a dit déjà dans les années 50 que l'objet technique est toujours une concrétisation d'une vision du monde. Et alors, bien sûr, il y a des conséquences après, mais à la base, on avance dans un projet de société qui, encore une fois, est implicite. Maintenant, si on regarde la représentation de l'humain dans notre société, ben, on se fait clairement une représentation de l'humain comme étant un être avant tout rationnel. Et maintenant, si on réfléchit de manière peut-être un peu binaire, mais au fait que l'humain est fait en même temps de son volet rationnel, mais aussi de son volet sensible auquel la séduction est liée, ben, on se rend compte que la tendance, c'est quand même celle d'évacuer toujours plus le côté sensible, parce qu'il est, déjà, il n'est pas calculable, il est moins maîtrisable. Et moi, si je regarde les chercheurs que j'ai rencontrés au cours de mon parcours, par rapport à la notion de déshumanisation, j'ai rencontré deux visions contrastées parmi des chercheurs qui tous disaient « il faut qu'on avance vers plus de rationalité », mais il y en avait qui disaient « nous sommes faits aussi de sensibilité, et donc en se débarrassant de cette sensibilité, on va se déshumaniser » pour devenir plus rationnel, et on va se débarrasser de cette sensibilité qui fait partie de notre définition de l'humain. Et d'autres, au contraire, qui disaient, d'accord, on a aussi des sentiments et de la sensibilité, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est humain. Donc pour cela, le fait d'aller vers toujours plus de rationalité et de se débarrasser des sentiments, ben, c'était un facteur de plus d'humanisation. Et donc je pense que quand on parle de déshumanisation, bah, il faut toujours se rappeler qu'on se réfère à une définition de l'humain qui peut-être nous est propre, qui peut-être est largement partagée, mais pas forcément. Et qu'on ne dit pas tous la même chose quand on parle de déshumanisation.
Monsieur a donné une parfaite illustration de ce que je viens de dire. Le patron a dit, fais-moi un rapport ou un algorithme qui me fait choisir Jacques.
Voilà. Tout est dit. La technique devait faire ce qu'il voulait.
Monsieur.
Oui, bonsoir. Je ne sais pas comment je vais prioriser mes questions parce que c'est tellement passionnant comme sujet. Je sais J'ai commencé à lire le livre Weapon of Mass Destruction de Cathy O'Neill, qui est pour moi très intéressant, alors je ne l'ai pas encore fini, qui, elle, est très critique par rapport aux algorithmes, de dire que ça potentialise le racisme, que ça a tendance à amplifier les différences en termes de classe sociale, que c'est une boîte noire, que quelqu'un qui typiquement va passer un entretien d'embauche ou va se faire juger, a tendance à être pas seulement jugé pour ce qu'il est, mais aussi par rapport à ce qu'elle appelle des proxies, donc les choses qui sont autour de cette personne, le fait d'avoir été en contact avec une autre personne qui a déjà eu lien avec la justice peut être un facteur aggravant. Alors que concrètement, en tant qu'être humain, on sait pertinemment que ce n'est pas parce qu'on a côtoyé une personne qui se drogue qu'on est soi-même un repris de justice. Donc toutes ces choses incitent à dire, mais en tant que consommateur plus ou moins volontaire, si je me fais juger, je ne sais pas exactement ce que je suis censé répondre pour augmenter mes chances d'être relaxé ou en tout cas de diminuer ma peine. Et ça ouvre la question de dire il faudrait que ce soit un livre ouvert parce qu'on est face à une black box qui peut nous amener d'énormes choses autant graves que très favorables si on prend le point de vue autre, qui est plutôt le patron, de se dire je ne vais pas investir énormément de temps et d'argent pour sélectionner le ou les bons candidats. Ce qui fait qu'on peut faire passer quelqu'un à la trappe sans forcément... qui pourrait avoir les compétences, mais qui n'a pas su jouer le jeu de l'algorithme, parce qu'il n'aurait pas compris, alors que par rapport au poste demandé, il aurait peut-être totalement les compétences. Donc ça, c'est... Oui, il faudrait ouvrir. Et j'ai entendu tout à l'heure la question ou la suggestion de dire qu'il faudrait légiférer, c'est un politicien, à la politique de légiférer, mais qui est en mesure de faire ça? On est face à des grands groupes, les GAFA, qui sont plus grands en termes de pays, plus grands, plus puissants que beaucoup de pays dans le monde, qui n'ont pas forcément une adresse, mais qui peuvent en avoir plusieurs en fonction de ce qui les intéresse, de mettre leur siège social un peu où ils veulent. Donc, qui légifère? Est-ce que c'est l'ONU? Qui? Et puis, peut-être une dernière question un peu piquante, mais qui dépasse probablement un peu le cadre, c'est comment? Comment on va... pouvoir maintenir ces algorithmes. On part un peu de l'axiome de dire on a les techniques et l'énergie nécessaires pour le développement de ces algorithmes. Or, il y a certains chercheurs qui prédisent un collapsus de la civilisation. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, il y a certaines choses qui laissent à penser que c'est pas impossible. Combien consomme l'Internet mondial, les algorithmes? Et comment on va pouvoir les faire fonctionner, avec quel substrat énergétique, alors même qu'on ne sait pas exactement si on va pouvoir nourrir la population. Et ces choses à mettre en balance, dans quelle mesure les algorithmes peuvent répondre à cette question. Merci.
Merci beaucoup. Donc là, on fait le tour. Donc on est passé du micro au macro-politique. Jusqu'à la question de l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Et peut-être notamment cette question de l'ouverture des algorithmes. Donc, est-ce vraiment réaliste? Et si oui, comment?
J'ai une série de réponses parce qu'il y avait plusieurs questions. Une qui m'interpelle beaucoup, c'est l'éthique. Alors, un des exemples que je connais, on a programmé les ordinateurs toujours avec l'idée de vous voyez des bons exemples et des mauvais, essayez de trouver ce qui est dans les bons exemples, puis essayez de répéter la même chose. Alors, on a donné aux États-Unis les cas de criminels qui sont en prison et qui demandent une remise de peine. Et puis ensuite, une fois qu'on a le cas que le juge décide, sur un certain nombre de critères, on a donné à la machine... les cas où il y a une récidive du crime similaire et ceux qui n'ont pas de récidive du crime similaire. Et la machine a appris, parce qu'il y avait certains cas qui étaient une remise de peine et la personne n'a pas commis d'autres crimes, et dans d'autres cas, une remise de peine et la personne a commis un crime. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que la machine avait très bien appris, elle avait des performances qui étaient un petit peu meilleures que les juges humains. très contente, jusqu'à ce qu'on tombe sur un certain nombre de cas pour se rendre compte que la machine, en fait, pour exactement le même cas, vous changiez la couleur de la peau de noir à blanc, et la machine disait, pour la personne qui était noire, c'était risque de récidive élevée, donc pas de remise de liberté. Si la personne était de caucasienne, blanche, on avait en fait une possibilité de remise de peine. Donc en fait ici, vous avez un exemple où le phénomène où l'éthique n'est pas respectée, puisqu'en fait la couleur de la peau ne devait pas rentrer en ligne de compte dans la décision du juge. C'est un petit peu compliqué, puisque dans le côté de médecine, c'est peut-être quelque chose d'important. Hein. D'origine caucasienne, afro-américaine, etc., peut entraîner qu'en fait, vous avez plus ou moins telle ou telle maladie. Est-ce que les grandes compagnies peuvent respecter les lois ou on peut les influencer? Ben, vous connaissez tous que Google ne donne pas la même réponse si vous êtes en Chine ou si vous êtes à Los Angeles ou à Berne. Et il s'adapte au monde politique. J'ai un autre exemple. Si vous avez l'occasion de voyager, regardez les cartes du monde. Prenez la carte de l'Union soviétique ou de la Russie si vous êtes à Moscou et vous fixez votre pointeur sur l'Ukraine. Ça ne sera pas marqué que ça a appartenu à la Crimée, ça ne sera pas marqué que ça a appartenu à l'Ukraine. C'est un territoire russe, etc. Vous vous mettez à Kiev, c'est évidemment territoire annexé. Vous avez exactement le même problème avec la Cisjordanie. Vous avez le même problème entre l'Inde et la Chine. Vous avez des cartes différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous voyez que les grandes compagnies peuvent s'adapter, en fait, si on vous leur mettait des réglementations à un certain point. Mise à jour, connaître les algorithmes, évidemment, par exemple, Google, le classement de Google, c'est un secret, c'est clair. On connaît les facteurs importants qui permettent de faire le classement dans Google, mais du côté de Google, on vous explique qu'en fait, les algorithmes ont changé assez rapidement. Donc, tous les 2-3 mois, il y a des choses qui changent un petit peu. Donc, ce que vous connaissez il y a 3-4 ans en arrière, en fait, n'est peut-être plus très bien l'algorithme qu'on va utiliser actuellement. Par contre, l'énergie est un sérieux problème. Avec les crypto-monnaies, on s'est rendu compte qu'on consommait beaucoup d'énergie. Et on a tout un travail de recherche actuellement qui se fait sur comment, avec une énergie donnée, peut-on faire des calculs ou comment, pour le même volume de calcul, réduire la consommation énergétique. Et ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est un domaine assez actif en informatique.
Philippe Alziger, Uber, Airbnb, vont-ils accepter d'ouvrir leurs algorithmes, d'ouvrir cette boîte noire ou comment déjà réagissent-ils s'ils réagissent par rapport à des projets de recherche comme tu les mènes? Est-ce qu'il y a là des signaux positifs, une sorte de volonté de jouer le jeu démocratique, ou comment vois-tu de ce point de vue-là la chose?
Bon, il y a différentes questions. Une chose, c'est est-ce qu'ils sont prêts à, par exemple, dévoiler leurs données pour des chercheurs, hein, pour travailler avec ces données? Ils le font en partie, hein. Mais je pense que ça dépend un peu des questions qu'on se pose. Si c'est des questions qu'ils se posent aussi, qu'ils trouvent intéressantes, oui. Mais nous, on travaille plutôt sur l'opposition à Uber, donc je pense qu'ils seraient un peu moins prêts. Mais en l'occurrence, on ne travaille pas sur Uber, mais je pense que ça dépend un peu de ça. Et puis, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut réglementer? Oui, bien sûr. Donc, Uber, ils sont interdits dans certaines villes, il y a des pays où ils n'ont pas le droit. Enfin, c'est tout à fait possible de réglementer, je pense. C'est pas... Et ils sont aussi... Enfin, ils jouent le jeu. Donc, par exemple, ils jouent le jeu. Évidemment, ils ont leurs intérêts, mais ils ont aussi... Enfin, leur premier intérêt, c'est de pouvoir opérer. Donc, pour pouvoir opérer, ils doivent se soumettre à certains droits de travail, ils doivent être reconnus comme employeurs, ils vont finir par le faire. Donc, moi, je pense que... oui, il y a... Enfin, il ne faut pas... Alors... Il ne faut pas penser que ces algorithmes-là ou ces grands groupes s'imposent à nous et qu'on ne peut rien faire. Je pense que ça doit être dans l'univers du possible, de l'imaginable, de réglementer aussi ces organisations-là.
Juste ajouter un mot sur la question de la réglementation. Moi, je pense que des grandes firmes comme Google, c'est nous qui leur donnons leur pouvoir. C'est de leurs utilisateurs qu'elles tirent leur pouvoir. Donc, réglementer pour elles, moi, je pense que c'est inutile d'abord pour ce que vous avez dit, mais en plus parce que c'est nous tous qui leur conférons le pouvoir qu'ils ont en leur donnant tout ce qu'on leur donne.
Merci. Alors, je vais jouer le jeu de l'algorithme et choisir deux voix féminines pour des questions. Monsieur va me dire si la question est formulée de manière féminine.
Alors, je vais simplement poser une question au futur, parce que je suis de l'autre côté maintenant. Existera-t-il une application qui permettra de se reconvertir en ayant certaines compétences et des acquis, mais sans les connaître vraiment au fond de soi, et une application qui permettra de nous aiguiller si on souhaite changer de voie pour être en accord avec les nouveaux besoins à venir?
Oui, excellente question. À l'avenir, alors je ne sais pas lire à l'avenir. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner vis-à-vis de ces changements qu'il y aura sur le marché du travail, c'est que les travailleurs soient flexibles, que les travailleurs soient bien formés. Il y a beaucoup d'analyses sur les gagnants et les perdants de l'économie de demain. Les gagnants seront des gens qui sauront se reconvertir, qui ont un certain nombre de ce qu'on appelle des compétences transversales, des soft skills, donc qui sont capables de se gérer eux-mêmes, qui sont capables disons, d'interagir de manière efficace, de manière réfléchie avec d'autres personnes. Et je pense que c'est ce genre de choses-là qui seront plus utiles. C'est ces choses-là qu'il faut peut-être plus, sur lesquelles il faut peut-être plus mettre l'accent dans nos programmes de formation aujourd'hui, quand on forme les jeunes, les apprentis, les étudiants. Les compétences techniques sont peut-être moins importantes. Elles occupent une très grande place dans les cursus d'études, les curriculums. Mais il faut peut-être plus mettre l'accent sur des compétences moins tangibles, en quelque sorte.
D'autres questions?
Il y avait une question là.
Oui.
Bon, il n'y avait pas d'autres. J'avais une question pour vous, madame, par rapport à la notion de risque et d'opportunité. Et puis, cette notion... vous avez dit, par exemple, que... On a vu que pour Netflix, l'efficacité pouvait être considérée comme positive, alors que dans d'autres cas, par exemple en politique, elle peut être considérée comme négative. Puis vous avez dit qu'il y a une sorte de curseur. Et je n'ai pas compris si vous posiez ce que vous sous-entendez. Est-ce que c'est juste un constat ou est-ce que vous posez un regard normatif sur cette notion d'efficacité?
Ça dépend de ce que vous entendez par normatif. Je dirais que j'espère que c'est avant tout un regard analytique, dans le sens où la question du curseur, ce que j'essayais de dire, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas été claire, mais que pour moi, le fait que ça soit un usage socialement considéré comme positif, comme l'exemple de Netflix, ou que ça soit un usage socialement considéré comme blâmable, d'un point de vue anthropologique, ça ne fait pas de différence fondamentale parce que derrière, les deux, le bon et le mauvais usage, sont la conséquence d'une volonté d'efficacité, de maîtrise et de rentabilité, quelque part. Alors, je dirais, ça, c'est le constat. Après, c'est vrai qu'on peut très facilement glisser dans le normatif à partir de là, ce que je vais essayer de ne pas faire ce soir.
D'accord. Donc les solutions pour vous, c'est pas quelque chose qui peut être régulé par des normes, ou par des règlements ou des choses comme ça, c'est vraiment à la base qu'il y a un problème.
Je pense qu'on a vraiment une représentation de l'humain dans notre société. Tout à l'heure, quand je disais Google, on peut pas légiférer parce que c'est nous qui donnons de la matière. Non seulement c'est nous qui donnons la matière et qui donnons le pouvoir, mais Google nous a pas mis le pistolet sur la tempe pour qu'on entre dans le jeu. Je veux dire, ils ont répondu, ils ont su surfer sur une société dans laquelle on rêve tous d'accès rapide à l'information, dans laquelle justement accéder à l'ordinateur, c'est par une équation réductrice très vite considéré comme accéder à l'information, et accéder à l'information, autre équation réductrice, c'est accéder au savoir, à la richesse. Enfin, il y a tout un imaginaire de promesses technologiques là derrière, et c'est cet imaginaire-là qui s'il ne change pas, Je veux dire, on restera jusqu'à ce que peut-être, comme vous le disiez, il y ait le collapsus final. On sera toujours pris dans nos bons usages et nos mauvais usages. C'est pour ça que je dis, c'est ce bon usage qu'il faut interroger.
Vous aviez... moi, ce que j'aimerais juste dire, il y a eu beaucoup de sujets, et puis ça part dans beaucoup de directions, mais il y a une chose quand même qui m'interpelle chaque fois, c'est la différence entre ce que les outils des grandes multinationales nées sur Internet, principalement américaines, nous proposent. On parle de Google, Facebook, etc. Et quand on parle d'algorithmes, le grand public pense souvent aux réseaux sociaux, à l'utilisation qu'on fait de ces données, de ces traces qu'on laisse sur Internet. Donc ça, d'accord. Mais... moi, ce que je constate au niveau des entreprises, ici en Suisse, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, et quand je discute avec des collègues qui travaillent dans des entreprises de la région, etc., on est à des années-lumière de l'utilisation, disons, pertinente d'algorithmes et d'outils que Google, par exemple, développe. C'est vraiment c'est l'âge de la pierre et puis la science-fiction. Enfin, je veux dire, c'est là, dans le débat, quand on entend quand même un petit peu cette... Elle Larson, là. Cette technophobie latente, hein, on entend un petit peu ça quand même. On pense surtout à critiquer donc, ces réseaux sociaux, principalement américains. Je suis le premier à le faire. Hein. D'ailleurs, là, j'aurais aussi des choses à dire, mais ce n'est pas ça que je voulais souligner maintenant. C'est ce décalage entre ces technologies algorithmiques proposées par des multinationales qui développent des efforts prodigieux pour, et puis qui ont des salles d'ordinateurs qui tournent partout dans le monde, qui consomment une énergie d'ailleurs probablement énorme. Et puis les outils informatiques que nous, entreprises locales, régionales, en Suisse, on utilise pour résoudre nos problèmes à nous, quotidiens. Parce que c'est clair que ce n'est pas Google qui va nous résoudre nos problèmes d'organisation de fichiers dans notre entreprise. Quoique, parfois, on utilise Google pour chercher des choses qui sont sur notre propre, dans notre propre entreprise. C'est paradoxal. Ça montre bien que le moteur de recherche qu'on devrait être capable quand même aujourd'hui d'installer sur nos propres fichiers, nos propres données sécurisées à l'intérieur de notre propre entreprise, il fonctionne parfois moins bien qu'un moteur de recherche externe. Mais moi, si vous voulez, dans mon travail quotidien, j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples qui montrent qu'on maîtrise mal ces technologies. L'exemple qui a été donné tout à l'heure, voilà, j'ai plein d'emails à envoyer. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois le faire ? Moi, personnellement, j'interprète ça comme un échec de nos entreprises, de nos organisations. C'est qu'il y a des tâches répétitives qu'on fait et qu'on n'arrive pas à automatiser. Et ce temps-là, je suis sûr qu'un postdoc, un chef de projet pourrait utiliser ça pour faire autre chose. Et je peux vous assurer que moi, dans mon constat, de ce que je fais au quotidien, c'est que c'est entre Google et puis ce qu'on constate des entreprises ici, c'est l'âge de la pierre. Quoi. On est de loin pas en train de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout bien gérer, d'avoir des algorithmes qui nous facilitent la vie. Pas du tout. On est à des années-lumière de ça.
Merci beaucoup. Donc finalement, ça soulève aussi, si je me permets de reformuler la question, ça soulève aussi vraiment cette question de comment nous, quand on parle de ceci, des dangers, voilà, on a parlé des éventuelles catastrophes qui nous attendaient, comment concrètement on formule les choses, combien de pouvoir on donne dans notre discours, dans notre imagination, dans notre critique à ces outils, à ces techniques de pouvoir, et comment on les comprend, comment on les problématise tout en sachant qu'effectivement ce danger, ce décalage de leur attribuer trop de pouvoir en quelque sorte, plus de pouvoir qu'ils ont réellement. Donc des réactions peut-être par rapport à ce point-là et aussi peut-être comment chacun de vous, et je pense qu'on arrive bientôt à la fin du débat, comment chacun de vous rencontre ce décalage dans votre réflexion sur la phénomène en question.
De commencer. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que vous dites, si je ne faisais pas des mails toute la journée, je pourrais peut-être faire autre chose de plus intéressant. En même temps, ce quelque chose de plus intéressant, il n'est pas défini. C'est là qu'on est de nouveau, à mon avis, dans l'ordre de la promesse technologique vague et qu'on est devant l'absence d'un projet de société clair. Je veux dire, à aucun moment on nous dit, toutes ces tâches répétitives que c'est plus moi qui vais faire, toi, humain, tu vas pouvoir les utiliser pour faire, je ne sais pas, une tâche précise dans laquelle tu t'épanouiras plus comme humain. Je veux dire, c'est l'histoire de la société des loisirs. On a parlé pendant longtemps de la société des loisirs. Ben, on a vu quoi ? Qu'on baisse les heures de travail ? Ben non, on ne va pas à la plage pour autant. On réinvestit dans la rentabilité par ailleurs. Donc moi, c'est ce phénomène-là que j'aimerais qu'on interroge, qu'on se dise, ok, très bien, alors imaginons que dans mon entreprise, je me rends compte qu'il y a des technologies qui pourraient être mieux utilisées et que je gagnerais du temps, alors ce temps-là, je vais l'utiliser à quoi ? Est-ce que je vais l'utiliser pour être encore plus rentable pour mon entreprise ? Ou est-ce que d'un point de vue, du point de vue de mon épanouissement, est-ce qu'on va me proposer quelque chose ? C'est à ce niveau-là que je parle de projet de société qui manque. Et juste un dernier élément par rapport à la technophobie. Moi, je ne suis pas technophobe. Hein. J'ai mon téléphone portable, j'ai mon ordinateur et je ne peux pas m'en passer. Et c'est justement aussi ça qui est un objet de réflexion pour moi. C'est qu'à titre individuel, on est tous contents. Enfin, tout à l'heure, je disais, c'est nous qui nourrissons Google. Je veux dire, essayez de m'enlever Google une journée et puis vous verrez comment je réagis. Je veux dire, à titre individuel, ça nous apporte du confort. On est tous contents avec ça. Par contre, si on prend, et ça c'est mon rôle d'anthropologue, de prendre de la distance par rapport au confort que ça m'apporte comme individu, et de me dire, mais comme société, vers quoi est-ce qu'on va comme société, vers quoi est-ce qu'on va collectivement ? Et c'est ça que je pense fondamentalement qu'il faut qu'on repense ensemble, comment on veut vivre ensemble.
Je suppose que chacun... des trois derniers se prononcent aussi sur la question justement du pouvoir réel de ces algorithmes et des éventuelles réactions, des éventuels grands questionnements qui en découlent, aussi un peu comme mot de la fin individuel, parce qu'après il va falloir malheureusement déjà clore le débat pour ce soir.
Moi je peux juste dire, moi je crois que c'est quelque chose que je trouve intéressant, qui nous intéresse aussi par exemple dans notre étude. C'est-à-dire, il y a certaines compétences peut-être que les professionnels devraient avoir aujourd'hui pour justement, par exemple, gérer les données ou gérer leurs interactions avec les plateformes aussi en partie. Par exemple, les hôteliers, comment ils vont faire pour être sûrs de gérer les différentes plateformes sur lesquelles ils sont. Et il n'y a pas forcément ces compétences. C'est une question qui nous intéresse. Est-ce qu'ils sont là? Comment ils font? Est-ce que ça change un peu les métiers, hein? Et je pense que ça renvoie à peut-être effectivement là des opportunités, c'est-à-dire des possibilités de créer des outils qui sont plus proches et plus utiles pour les entreprises, les petites entreprises, etc. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est... Je ne suis pas persuadé que mon collègue, vous ne savez pas quoi faire dans le temps où vous n'envoyez pas vos emails. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même une idée claire. Enfin, les gens, ils ont quand même... Moi, je ne suis pas persuadé que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'être efficace que c'est ça fondamentalement l'humain. Moi, j'ai l'impression que justement, beaucoup des algorithmes ou de ces technologies nous permettent de nous épanouir autrement. Alors, ils doivent être efficaces pour nous permettre de le faire. Mais voilà, donc je ne suis pas aussi... je suis pas tout à fait d'accord avec vous, ou peut-être je vous ai mal compris sur cet aspect-là.
Non, vous avez très bien compris.
J'ai bien compris. Alors, très bien.
Donc, je suis beaucoup plus pessimiste que vous.
On a dit qu'on allait essayer de se... finir par avoir
voilà, on finit par un vrai débat.
Bataille, donc voilà.
Monsieur Bangeter.
Moi je pense pas que ça soit l'humain qui soit efficace et rentable. Je pense que c'est la représentation de l'humain dans laquelle notre société nous enferme, qui se représente l'humain comme étant ce qu'on appelle Homo economicus en anthropologie. L'humain, une définition de l'humain qui est notre définition de notre société, qui se dit que l'humain est par définition rationnel et calculateur, et qui du coup met cette définition-là de l'humain en avant. Ce qu'il faudrait faire, c'est se détacher d'Homo economicus et arriver à mettre en avant Homo autre chose qui nous permette justement librement de faire autre chose que d'être rentable pour notre entreprise.
J'ai juste envie de dire que, comme beaucoup d'exemples qui ont été soulevés, moi j'hésite depuis depuis ce scandale Cambridge Analytica, de fermer mon compte sur Facebook. Il paraît que c'est possible. C'est pas facile, mais il paraît que c'est possible. J'hésite à le faire parce que j'ai beaucoup de relations sociales avec des gens que je vois très rarement, qui sont maintenus à travers Facebook. Donc je maintiens une relation avec des gens que je vois une fois tous les 10 ans, qui c'est possible via Facebook, et ça m'apporte quelque chose. Et ça, c'est le problème, c'est que beaucoup de ces grandes corporations ont trouvé ce qu'on appelle la gamification, par exemple, ont trouvé des mécanismes pour nous motiver à rester dans le jeu, en quelque sorte. Donc, je pense, donc c'est ce qu'on appelle en économie le dilemme des biens publics. Et la solution pour ça, donc chacun de son côté va choisir de rester sur Facebook parce qu'il a une certaine utilité. Hein. Alors, la solution, c'est une solution théorique, mais la solution, c'est que les gens se coordonnent, c'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, nous tous, on rejette ça. Donc, c'est quelque sorte la nécessité de créer des mouvements sociaux qui vont devenir des institutions à leur tour, des institutions sociales. Donc ça peut être des institutions législatives, mais aussi il y a beaucoup d'autres possibilités de créer des groupes, des mouvements qui peuvent résister contre la puissance de ces grands groupes. Voilà.
Merci. J'aimerais aussi apporter une note plus positive. Alors deux, trois choses sur cet homo algorithmicus. Les réseaux sociaux peuvent aussi nous rendre service. Alors, ils ne sont pas toujours contre nous. Un exemple que j'ai, aux États-Unis, il y a une tuerie dans un collège. Un étudiant se présente à la télévision et sur les réseaux sociaux sur Facebook en disant « j'étais là, je n'ai pas pu intervenir ». Le soir même, sur CNN, la présentatrice se moque de cet étudiant qui n'a pas réussi à faire quelque chose d'extraordinaire à cette école. Le lendemain matin, l'étudiant s'est plaint, a écrit une plainte, entre guillemets, sur Facebook, demandant aux compagnies de ne plus sponsoriser l'émission en question. En 8 heures, 7 grosses compagnies ont dit qu'elles retiraient leur publicité à CNN. Et je peux vous dire qu'en 24 heures, la speakerine qui s'était moquée de l'étudiant est devenue devant les caméras pour, en fait, s'excuser en disant « c'est pas du tout ce que je pensais, mes paroles ont été trop loin, etc. » Donc vous voyez qu'on peut tourner aussi des fois les réseaux sociaux à notre avantage, et dans ce cas-ci, c'était un petit étudiant contre CNN, et c'est le petit étudiant qui a gagné. Mon deuxième élément d'espoir, peut-être, ou de chance, c'est que l'informatique, maintenant, va être une des branches enseignables à l'école. L'école primaire, l'école secondaire, et ça va donner une chance à nos enfants, petits-enfants, de se préparer dans cette société du numérique et des mutations. Et je pense qu'ici, si on a la possibilité de pouvoir faire des enseignements, non, il ne s'agit pas de programmer des ordinateurs, mais d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux, comment fonctionnent les réseaux. Un des exemples que je donne volontiers, c'est comment fabriquer des fausses nouvelles, pour qu'ensuite ils aient un peu l'esprit plus critique lorsqu'on leur présente un certain nombre de nouvelles. Par exemple, je peux vous envoyer un tweet avec la signature de M. Trump et qui a l'air tout à fait authentique, et je mets le texte que je veux. Donc vous voyez, on peut créer des outils pour vous créer des fausses nouvelles, et on va apprendre, en fait, on va apprendre à nos jeunes, par un exemple, à avoir un esprit critique par rapport à ces informations qu'ils vont recevoir sur Internet. Je pense que ça pourrait être un atout pour nous, d'avoir tout ensemble de compétences, de comprendre des réseaux, comprendre des ordinateurs, et de comprendre ce qu'on peut faire ou ne pas faire, de réapprendre, par exemple, le français avec les ordinateurs. J'ai pris quelques exemples tout à l'heure avec le passé, le présent, le fait que vous ayez utilisé plus ou moins de pronoms. On a un certain nombre d'applications intéressantes qu'on peut retrouver avec l'informatique et les sciences sociales.
Voilà, je propose de finir sur cette note positive, sans oublier les notes négatives, les craintes et les critiques et les grandes questions de société qui ont été soulevées. Un immense merci aux 4 intervenants de ce soir, donc Philippe Alziger, Daniela Cerqui, Adrien Bangerter et Jacques Savoie.